Voici Hélène Roussel pour le journal. Bonjour Hélène.
Bonjour. À voter l'article 24, le plus controversé de la proposition de loi sur la sécurité globale, adopté hier par l'Assemblée. Le gouvernement a reculé, l'a modifié, des garanties pour le droit d'informer. Pas suffisant pour l'opposition, vous l'entendrez. 3 jours pour trancher, mardi 20h, Emmanuel Macron à la télé pour donner les contours d'un confinement allégé, mais surtout ne rien lâcher, le virus en décrue circule toujours. Dans ce journal, nous irons aussi au Burkina Faso, week-end d'élection. Nous écouterons Ibrahim Malouf pour ses 40 ans et nous irons au large du Brésil prendre des nouvelles des skippers dans le Vendée Globe.
Et l'invité à partir de 8h20, ce sera Franck Riester, le ministre délégué en charge du commerce extérieur.
France Inter.
Aucun policier, aucun gendarme n'est autorisé et ne sera autorisé à empêcher quelqu'un de filmer. Rétropédalage dans les règles de l'art. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dû amender l'article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale pour la faire passer à l'Assemblée. Votée donc hier soir par les députés, 146 voix pour, 24 contre. Christophe Castaner, le patron des députés En Marche, s'en félicite.
En aucun cas, la liberté d'expression et le travail des journalistes ne doit être menacé, conditionné, encadré. Mais qu'en même temps, cette société, notamment celle des réseaux sociaux qui vise à jeter en pâture nos policiers, nos gendarmes, nos policiers municipaux, tous ceux qui représentent l'autorité, ben nous leur devons protection. Nous avons une seule ambition, celle de rassurer et de faire en sorte que tous ceux qui relèvent de la liberté d'expression et de la liberté d'information soient garantis. Pour moi, il n'y a pas de doute sur ce sujet. Il n'y en avait pas dans l'article 24, mais le débat a eu lieu. Et nous avons souhaité, sous l'autorité du Premier ministre, faire en sorte que la clarté permette de répondre à toutes les inquiétudes.
Il faut désormais, c'est écrit comme ça, une intention manifeste de nuire pour être sanctionné. Toujours beaucoup trop ambigu pour Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, qui demande le retrait pur et simple du texte.
Cet article ne résout rien. Nous réclamons des moyens pour la plateforme Pharos, qui traite la question du harcèlement en ligne. Il n'y a que 30 personnes pour l'entièreté du pays et l'entièreté des réseaux sociaux. Donc évidemment qu'il y a des besoins criants, et notamment pour accompagner juridiquement les policiers et les policières et faire sanctionner ce harcèlement. Mais la mesure proposée par Gérald Darmanin révèle une pente dangereuse dans notre pays, d'atteinte profonde, j'ai craint irréversible, aux libertés publiques. C'est ce que dit le Comité consultatif des droits de l'homme de l'ONU, c'est ce que dit la défenseure des droits Claire Hédon. Le gouvernement doit entendre et reculer sur ce sujet.
Et ceux qui dénoncent toujours une loi liberticide ont prévu de manifester cet après-midi 14h à Paris au Trocadéro.
Le pic de la deuxième vague est sans doute derrière nous, mais cette décrue ne veut pas dire pour autant déconfinement.
L'épidémie de Covid recule sûrement mais lentement. En une semaine, les cas de contamination ont chuté de 40%, les admissions en réanimation de 9%. Mais attention, rappelle Santé publique France, le virus circule toujours beaucoup. 32 000 patients hospitalisés à ce jour. Donc surtout, ne rien lâcher. C'est aussi le message des soignants, comme ici, au CHU de Toulouse. Reportage Stéphane Iglesis.
Confinement et couvre-feu ont cassé l'envolée de l'épidémie de Covid-19. Les soignants le reconnaissent, ça va mieux, mais il ne faut pas relâcher l'effort. Vincent Boone, directeur du SAMU 31.
Nous aussi, on aimerait bien faire les courses de Noël, voir la famille, passer du temps chez nos grands-parents et avec nos cousins, mais il faut effectivement encore tenir un peu. Il y a quand même beaucoup de signes d'espoir. D'une part, c'est une maladie qu'on connaît bien. D'autre part, on a quand même eu, des prises en charge adaptées. On a sauvé des vies par centaines, ça c'est clair. On a les vaccins qui vont arriver, on a clairement un moyen de maîtrise de la maladie avec un confinement qui est un peu moins dur que la première fois. Ce qui est important vraiment, c'est de continuer à se protéger, continuer à protéger ce qu'on aime.
Chloé Demiglio est biostatisticienne au service de virologie du CHU de Toulouse. C'est la madame météo du virus pour l'agglomération toulousaine.
Dans l'attente du vaccin et en l'absence pour le moment de ce vaccin, il est dans l'intérêt de tout le monde et en particulier des personnes de notre famille qui sont les plus à risque, de maintenir des mesures qui nous permettent de nous réunir sans mettre en danger l'ensemble des personnes qui seront réunies à ce moment-là.
La situation s'améliore aussi dans l'ensemble des départements d'Occitanie, même si nous ne sommes qu'au milieu du chemin, selon l'Agence régionale de santé. Toulouse, Stéphanie Iglesis, France Inter.
D'ailleurs, le gouvernement ne parle pas de déconfinement, plutôt d'une adaptation du confinement avec les attestations qui resteraient en vigueur, les bars et les restaurants fermés. En revanche, la réouverture des commerces pour la fin de semaine prochaine se profile avec une jauge de 8 mètres carrés par client. Des verrouillages aussi en vue pour le monde de la culture ou encore les messes à l'église. Mais sous quelles conditions? Le gouvernement a 3 jours pour trancher avant l'allocution à la télévision d'Emmanuel Macron mardi 20h. En suspens aussi le sort des stations de ski. Les élus concernés seront reçus lundi par Jean Castex. Tenir donc en attendant, Le vaccin, l'Europe comme les États-Unis pourraient le commercialiser d'ici la fin de l'année. Encore va-t-il falloir convaincre. Et là aussi, Karine Bécard, le gouvernement a du pain sur la planche.
Comment réussir à donner confiance aux Français? Comment parvenir à les inciter à se faire vacciner, mais sans les obliger? La question n'est pas facile. En France, réputée pour être l'un des pays les plus réfractaires au vaccin, un tout petit peu plus d'un Français sur deux seulement est prêt aujourd'hui à se faire vacciner. Alors certes, il va falloir jouer la carte de la transparence, mais reste à savoir comment l'organiser, comment la structurer. D'un côté, les experts, les médecins auront bien sûr un grand rôle à jouer, et de l'autre côté, les politiques ne peuvent pas sur ce sujet passer leur temps à se déchirer. Or, elle est là, la plus grande crainte de la majorité. Voilà pourquoi le Premier ministre Jean Castex a décidé de reprendre une idée du PS, celle d'un comité de liaison avec des citoyens. L'objectif, c'est de créer du consensus, c'est que tout le monde finisse par converger vers la même solution. Alors faut-il y voir la nouvelle méthode gouvernementale? En tout cas, c'est la même que celle qui vient de marcher pour repousser au mois de juin les prochaines régionales.
Karine Bécard, vaccinée massivement, Paris s'y prépare en tout cas. Les équipes d'Anne Hidalgo en visioconférence hier, une campagne qui ciblerait d'abord les plus de 65 ans et les plus fragiles, avec un objectif, 700 000 personnes vaccinées dès le début de l'année, soit un tiers des Parisiens immunisés. À propos d'immunité, une étude britannique vient confirmer celle des Américains. Tous ceux qui ont été contaminés par le Covid seraient protégés au moins sur 6 mois. Covid oblige, c'est un G20 tout particulier, un sommet virtuel qui commence aujourd'hui sous la présidence de l'Arabie Saoudite, une grande première. Un G20 consacré essentiellement à la crise sanitaire. Les dirigeants les plus puissants de la planète sauront-ils faire bloc et preuve de solidarité financière? C'est tout l'enjeu. Le Burkina Faso, élections présidentielles et législatives sur fond d'insécurité liée au terrorisme. Le djihadisme en toile de fond pour ses 8 millions d'habitants appelés à voter demain. La campagne en tout cas s'est terminée hier avec le dernier meeting du président sortant dans la capitale Ouagadougou. Se trouve notre envoyé spécial Nathanaël Charbonnier.
Le stade du 4 août de Ouagadougou était rempli, 35 000 personnes présentes pour saluer le bon travail effectué, selon elles, par leur président.
Kabore, c'est vraiment un président idéal. Vraiment, on est fiers de ce monsieur. Fiers et uniquement fiers de ce monsieur.
Et le président Rock d'aller dans le même sens, en soulignant l'avancée depuis 5 ans de la démocratie dans son pays. Il a également évoqué le sort de l'ancien président en exil Blaise Compaoré, dont le retour est possible à condition qu'il passe par la case justice.
Concernant ceux qui ont fui le Burkina Faso, je dis et je répète, tout le monde peut rentrer au Burkina Faso. Nous sommes une terre de démocratie, mais il faut dire qu'il y a un mais. Le mais là, c'est que si tu as des problèmes à la justice, tu répondras devant la justice du peuple.
Quoi qu'il en soit, la démonstration de force était réussie pour le président Rock, tellement réussie que pour ses partisans, une victoire au premier tour est tout simplement une évidence.
C'est comme le président a dit, Hakuna Matata, il n'y a pas de souci.
Hakuna Matata.
Hakuna Matata, pas de souci, on a gagné. Le un coup KO est assuré.
Et réponse dimanche, les résultats au Burkina devraient tomber dans la soirée. Ouagadougou, Eric Audra, Nathanaël Charbonnier, France Inter.
À l'étranger, toujours en bref, plusieurs explosions ce matin dans le centre de Kaboul en Afghanistan, alors que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo doit faire un point aujourd'hui avec les talibans et le gouvernement afghan sur les pourparlers. La rencontre est au Qatar. Les États-Unis, où Donald Trump, une fois encore en conférence de presse hier, affirme avoir gagné. Pourtant, même le secrétaire d'État républicain de Géorgie, où le recomptage donne Biden vainqueur, assure que les chiffres ne mentent pas. Et d'ailleurs, même Twitter s'y met. Le réseau social annonce ce matin que le contrôle du compte POTUS, President of the United States, sera bien remis à Joe Biden dès qu'il prêtera serment.
En France, c'est le dernier jour de procès de Jonathan Daval, accusé d'avoir tué sa femme Alexia.
Verdict attendu d'ici la fin de journée aux assises de Vesoul après les plaidoiries de la défense. Hier, c'était le réquisitoire. Compte rendu d'audience avec Corinne Audouin.
L'avocat général Emmanuel Dupic n'en fait pas mystère. Pour lui, le meurtre d'Alexia Fouillot par son mari, Jonathan Daval, relève du féminicide et doit donc être puni lourdement. Pour en convaincre la cour, le représentant de l'accusation a demandé à verser au débat des décisions de cour d'assises ayant condamné des auteurs de meurtres conjugaux à 30 ans de réclusion criminelle. « Vous aviez commis le crime parfait », a-t-il notamment lancé à l'accusé. Pour lui, ces déclarations ne sont que mensonges et manipulations. Si la préméditation n'a pas été retenue contre Jonathan Daval, son attitude pendant l'instruction, de la mise en scène jusqu'aux aveux, en passant par les fausses accusations, est un élément à charge important. En face, la défense, portée avec pugnacité par Randall Schwerdorfer et Ornella Spatafora, va tenter de déconstruire cette thèse. Ce n'est pas un crime de possession, explique ainsi maître Schwerdorfer, mais l'histoire d'un homme obsessionnel, incapable de dire non à la maison, au désir d'enfant de sa femme, à ses reproches, avant d'exploser d'un coup, comme une digue qui cède. Jonathan Daval, lui, a déjà dit qu'il accepterait sa peine, quelle qu'elle soit. Vesoul, Corinne Audouin, France Inter.
Et risque la réclusion criminelle à perpétuité. Il y aura un hommage national, annonce Emmanuel Macron. Daniel Cordier, l'un des premiers Français à rejoindre le général de Gaulle à Londres, puis secrétaire de Jean Moulin, est mort hier. Il avait 100 ans. Il reste un seul compagnon de la libération encore en vie, Hubert Germain Centenaire, lui aussi. Allez, on va s'évader un peu pour finir et vibrer avec le trompettiste Ibrahim Malouf. Il fête ses 40 ans avec un disque qui regroupe ses plus grands thèmes, avec des invités tous plus prestigieux les uns que les autres, de Marcus Miller à Mathieu Chédid. Le disque s'appelle tout simplement 40 mélodies. Mathieu Culon.
Pour son anniversaire, Ibrahim Malouf revisite ses classiques. Lui qui dit souvent vouloir mettre la trompette de côté, a décidé finalement de lui rendre hommage.
J'avais vraiment envie de mettre la trompette à l'honneur et de fêter ses 40 ans en mettant la trompette un peu en avant. Puis il y a un autre élément qui était important pour moi, c'était les mélodies. Alors oui, j'ai appelé cet album 40 mélodies en référence aux 40 bougies. Bien qu'il y en ait 43 d'ailleurs, hein, j'en ai mis 3 en bonus qui sont 3 mélodies qui, je n'avais jamais enregistrées avant. Mais les 40 font partie des mélodies qui m'ont rythmé mes albums et mes musiques de films. Je crois que les mélodies restent.
Dans son répertoire, Ibrahim Malouf a pioché parmi les succès, mais aussi parmi les titres les moins identifiés, accompagnés par une pléiade d'invités.
Des titres comme Beyrouth ou... Lily Will Soon Be a Woman, ou True Sorry, ou des morceaux comme ça, Red and Black Light, etc. Il y a des morceaux un peu moins connus, des extraits de musique de film, il y a un peu de tout. Et puis plein d'invités, évidemment, qui sont là et qui nous accompagnent, François et moi. Mathieu Chédid, Sting, Marcus Miller, etc. Je m'offre un vrai beau cadeau.
40 mélodies, un résumé de la carrière d'Ibrahim Malouf, un tour du monde musical de Beyrouth à Harlem, des Balkans à Marseille.
Un disque à savourer, hein, si on comprend bien.
Ouais, on comprend aussi qu'à 8h12, c'est l'heure d'évoquer les sports.
Et on vous emmène au large du Brésil, Esprit Sport avec vous, Emma Sarango, bonjour.
Bonjour.
Il vient de perdre la première place du classement du Vendée Globe au profit de Thomas Ruyant, mais ce n'est pas ce qui importe ce matin, non, car le Britannique Alex Thompson, favori de l'édition, a surtout fait preuve de son grand cœur.
Oui, on savait, Hélène, que le Vendée Globe n'était pas seulement l'une des courses les plus difficiles au monde, mais aussi l'occasion de faire passer des messages, de promouvoir des opérations caritatives. De là à ce que le favori de l'épreuve choisisse en pleine course, et alors que sa place de leader est menacée, de consacrer quelques minutes à un phénomène de société, là, c'est sûr, c'est inédit. Dans une vidéo donc publiée il y a un peu plus de 24 heures sur les réseaux sociaux, Alex Thompson, en train de régler ses voiles depuis son cockpit obscur au milieu de l'Atlantique Sud, raconte comment, petit, il a été victime de harcèlement scolaire.
Mon père était pilote d'hélicoptère. Je suis allé dans 11 écoles différentes, dans 5 pays différents. Je peux vous assurer que je sais ce que c'est de se sentir exclu, d'être celui qui ne parle pas de la même façon que les autres, de ne pas avoir la même apparence, le vélo dernier cri ou les baskets à la mode. Je sais ce que ça fait.
Thompson, 46 ans aujourd'hui et père de 2 enfants, raconte ensuite comment son frère et sa sœur jumelle l'ont défendu. Il exhorte donc les élèves à parler autour d'eux de ce qu'ils endurent. Un message délivré à l'attention de ses 25 000 abonnés, alors que la semaine contre le harcèlement scolaire est organisée en ce moment dans son pays, en Grande-Bretagne.
Même si Alex Thompson a toujours su se démarquer au sein d'une flotte, on ne l'attendait décidément pas sur ce genre de sujet.
Oui, car le Britannique est plutôt coutumier des vidéos à sensation. C'est ainsi qu'en 2012, il fait le buzz avec son kill walk en costume, cravate, Hugo Boss, bien sûr, sans sponsor. Il incline son Imoca à 45 degrés et marche sur la quille, l'appendice qui est sous la coque, censé être sous l'eau. 3 millions de vues sur YouTube. 2 ans plus tard, nouvelle folie, le Mast Walk. Toujours en costume, il marche jusqu'en haut de son mât, perpendiculairement, donc sur 29 mètres. Et puis en 2016, le Skywalk, toujours en costard, il se fait tracter en kitesurf, accroché à son bateau. Bref, Alex Thompson, parfois surnommé l'enfant terrible de la voile, détonne dans un monde plutôt rangé. Mais
paradoxalement, chez lui en Grande-Bretagne, il n'est pas très connu. Quand la BBC consacre 3 heures d'émission spéciale à sa compatriote Hélène MacArthur, deuxième du Vendée Globe en 2011, lui n'a le droit qu'à des portraits sur les chaînes locales. Alors pour être davantage visible, pour que ses messages soient d'autant plus entendus, il ne lui manque plus qu'une chose, une victoire sur l'Everest des mers.
Et franchement, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Merci Emma Sarango.
Emma Sarango dans le journal d'Hélène Roussel. Le temps de ce samedi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles. Cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et attention aux gelées matinales, hein, Jean-Michel Gonaski.
De fréquentes gelées en fin de nuit sur un axe sud-ouest, centre et de l'Auvergne-Rhône-Alpes au quart nord-est, de l'ordre de moins 4 à Luxeuil-les-Bains, Épinal, Metz et Vichy, moins 3 à Saint-Étienne, Nevers, Saint-Dizier, Strasbourg, 0 à moins 2 dans le sud-ouest, contre 8 à 12 près de la Manche et de la Méditerranée. Cet après-midi, il est prévu 6 à 9 entre le Dauphiné, la Lorraine et l'Alsace, 15 en moyenne autour de la Méditerranée et 9 à 13 sur le reste du pays. Aujourd'hui, la Corse va retrouver un ciel bien bleu, mais le vent va rester sensible, vers 100 km par heure sur les caps. Du soleil également pour la moitié sud du pays, après la levée des brouillards, plus lent à évoluer près de la Garonne et dans le Val-de-Saône, plus haut du Val-de-Loire au bassin parisien et sur Champagne-Ardenne. Le ciel sera assez voilé, mais plus près de la Manche, l'ambiance sera plutôt grise, avec des intermèdes plus maussades sur les côtes, où le vent sera sensible.